vie est un roman, nous sommes sur Aligre FM et j'ai le grand plaisir de recevoir Agathe Novak, le chevalier, donc Aligre FM 93.1, La vie est un roman. Et Agathe va me demander si j'aimais Houellebecq, c'est assez amusant, parce que je pensais commencer à parler de son cahier de Lerne en soulignant le fait qu'il est plein de jeux. Je pense que c'est le cahier de Lerne où il y a le plus de jeux que... Enfin, je ne pense pas qu'il y ait un autre cas de figure. Et quand je parle de jeux, ce n'est pas les jeux de l'auteur, c'est le jeu des contributeurs. Pratiquement, il y a, je sais pas, 60 ou 70% des contributions qui commencent par « jeux ». J'ai rencontré Houellebecq à tel endroit. J'étais dans sa chambre d'hôtel à la place d'Italie, dans tel hôtel. C'était un peu triste. J'avais un peu peur parce qu'il a la réputation de demander allez, aux filles, surtout les Allemandes qui viennent le voir coucher avec lui. J'étais à l'école avec lui, j'étais au scout avec lui, j'étais... Il y a cette espèce de... Bon, il vous a adoubé sur France 2, j'ai vu ce petit...
Oui.
C'est la seule sortie publique qu'il fait.
Oui, c'est la seule.
Et je pense que c'est une réussite totale à la fois pour les Cahiers de Lerne, pour Houellebecq et pour vous, en ce sens que ça fait événement, comme s'il avait sorti un livre, en fait. Comme si sur cette rentrée littéraire, il avait sorti un livre.
Oui, ben, alors... Il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. La première, c'est que, en effet, ça a été un des partis pris du cahier de faire appel beaucoup à des gens qui l'ont connu, qui ont été présents à un moment dans son parcours. Et du coup, c'est vrai qu'il y a énormément de témoignages. Donc, qui, en effet, commence par jeu. C'est un cahier peut-être beaucoup moins universitaire que d'autres, qui part de gens, en effet, qui donnent une autre vision de Houellebecq parce que ils l'ont connu, ils ont discuté avec lui, ils ont partagé sa trajectoire à un moment. Et donc, ça donne en effet un ton particulier à ce cahier-là. Et puis, le fait que ça fasse événement comme un livre, c'est vrai qu'il y a eu un peu de ça. Alors, ça fait quand même moins de d'écho médiatique que si c'était vraiment un roman de Houellebecq. Mais, là, c'est pas un livre qu'il a fait, mais il y a pas mal d'inédits dans le cahier, donc de textes qu'il a écrits à des périodes très diverses de sa vie et qui avaient jamais été publiés avant, des textes en plus extrêmement variés parce que il y a à la fois des poèmes, un fragment d'autobiographie, une pièce de théâtre très étrange, une réflexion. Alors ça a été publié à part, mais une petite réflexion autour de Schopenhauer qu'il avait commencé à un moment à retraduire, etc. Beaucoup d'articles, beaucoup de mini-essais, des préfaces, enfin, du coup, c'est vrai qu'on le découvre d'une autre manière, et le bandeau que Lerne avait choisi de mettre sur le cahier, c'était Houellebecq inédit, et d'une certaine manière, j'étais contente, c'est pas moi qui ai trouvé ça, c'est eux, et j'étais contente quand ils l'ont trouvé, parce que je trouvais que ça rendait bien compte de l'idée de ce que je voulais, en tout cas, essayer de transmettre avec ce cahier.
Oui, et puis dans cette idée d'inédit, enfin, toujours une ambiguïté quand on parle de Houellebecq, et dans cette idée d'inédit, il y a une idée journalistique en fait aussi. Inédit, un Houellebecq que vous ne connaissez pas.
Oui, c'est ça,
c'est
ça.
Pas dans le sens de publication inédite, mais dans le sens d'autres aspects de sa personnalité.
Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Oui, d'autres aspects, justement, portés par tous ces regards différents qui sont focalisés sur lui, mais qui, en même temps qu'ils sont focalisés sur lui, en effet, disent des choses, des gens qui parlent, et disent aussi, du coup, des choses de la réception qui est celle de Houellebecq.
Alors, juste en passant, j'ai vu... Quand je disais que ça avait fait événement, j'ai vu un article, par exemple, je crois que c'est celui du Monde, où il y avait on voit qu'ils sont formatés à un certain type de réaction aux publications de Houellebecq, où, par exemple, il y a un mouvement de mauvaise humeur de la part de certains journalistes, d'emblée. ils sont fâchés parce qu'on dit qu'ils sont fâchés, quoi. Enfin, ils disent. Mais enfin, on nous dit que personne n'aime Houellebecq, on fait ce cahier de l'herbe sur lui, tout le monde le flatte, en fait. Et puis, on vient nous dire qu'on est méchant avec lui. Et le journaliste ne sait pas sur quel pied danser, il y a quelque chose.
Ouais, oui, oui,
qui est produit par Houellebecq. C'est oui. Un effet que produit Houellebecq.
Oui,
hein.
Ouais, il y a un côté assez drôle du fait que.
Alors, il y a un autre aspect qui est extrêmement nouveau dans votre cahier de l'herbe. Je pense pas qu'il y ait un précédent. Je parle uniquement des cahiers de l'herbe, là. C'est la réception, c'est le travail qui reste très impressionniste, mais sociologique sur la réception de Houellebecq. Le discours, par exemple, de Bourgneau, qui est formidable. Ouais. Les deux meilleurs articles à ce niveau-là sont les deux des gens des Inrecuptibles, ouais. Qui racontent bien qu'ils ont fait, en partie, ils ont fait Houellebecq, ils l'ont soutenu. Et c'est extrêmement en contradiction avec l'image. Enfin, ça dépend de l'image qu'on a de Houellebecq, et Dieu sait si les images de Houellebecq sont multiples. Ouais. Mais c'est quelque chose que Houellebecq ne semble pas, c'est ce côté lisse et branché qu'ont les Inrecuptibles, ouais. Ce côté propre de ce bon garçon propre sur eux. Qui écoute des choses un peu sophistiquées, anglo-saxonnes, et un peu imbitables, comme ça, un peu difficiles d'accès. C'est pas rock'n'roll, quoi. C'est pas, il n'y a pas le côté folk, il n'y a pas le côté bouseux. C'est très urbain, c'est toujours plus malin que les autres et tout ça. C'est très, un petit peu l'esprit de Canal Plus d'il y a 15 ans, c'est cynique. Et ils ont épousé Houellebecq. Enfin, je me souviens, le numéro spécial qu'ils avaient fait sur Houellebecq était très, très bien. Alors que souvent, ces numéros spéciaux aussi, c'est des choses imbitables.
Ouais.
Et bon, mais non. On est d'accord qu'il y a Iggy Pop et Houellebecq, mais enfin, c'est un Iggy Pop très ringard, qui est devenu très Houellebecquien lui-même. C'est pas le Iggy Pop flambant d'il y a 30 ans. C'est pas le Iggy Pop des Stooges, quand même, que je sache. Enfin, ça pas. Et donc, alors, je parle trop là. Mais la seule chose que je veux dire, c'est que cet aspect sociologique, il y a aussi un discours sur le phénomène Houellebecq à l'intérieur de ces cahiers d'armes qui ne doit pas exister dans les autres cahiers. On s'en fout des autres cahiers d'armes, enfin, qui est spécifique de ce cahier.
Alors, peut-être, mais en fait, ce que dit Sylvain Bourmeau, par exemple, peut-être ce que dit plutôt Marc Weitzman, qui est l'autre des Inrocs qui parle en effet dans le cahier, c'est que c'est vrai qu'il y a eu un moment où les Inrocs ont choisi d'accompagner la sortie des particules élémentaires. C'est la fameuse une de 98 qui était programmée derrière par Raphaël Sorin, qui a fait un coup de maître vraiment en faisant faire la une pour un écrivain qui était absolument pas connu à l'époque, à la fois dans le magazine Lire, qui était plus grand public, diffusé plus largement et plus traditionnel, et puis la une des Inrocs, magazine branché, etc. Et donc il a réussi à avoir les deux unes à la fois, ça a lancé véritablement la réception des particules dont tous les journaux ont parlé à l'époque. Par ailleurs, donc en effet, les Inrocs ont vraiment décidé de mettre Houellebecq en avant, et c'était, je crois, vraiment une des premières fois que ça s'est fait vraiment, d'essayer de porter un écrivain de ce journal culturel plutôt issu du milieu parisien branché, en effet. Mais ce que Weitzman dit, c'est que, d'une certaine manière, les Inrocs n'auraient pas fait cette une. Ça aurait peut-être mis plus de temps à émerger, mais ça aurait émergé quand même. Parce que il y avait déjà eu l'extension du domaine de la lutte, qui était parue en 94, qui avait eu pas un succès de vente extraordinaire, mais un vrai succès critique d'estime. Et il y avait une attente extrêmement forte du prochain Houellebecq dans le milieu culturel français. Et donc, il y avait cette attente-là, attente qui a d'ailleurs permis que Sorin emmène Houellebecq chez Flammarion. Et Houellebecq a d'abord d'ailleurs trompé cette attente, parce qu'il a choisi, et ça c'est assez extraordinaire, alors que tout le monde attendait son nouveau roman, il l'a imposé de faire paraître d'abord un recueil de poésie, 2 ans après, en 96, qui s'appelait Le sens du combat, et puis seulement en 98 sont sorties Les particules élémentaires, et là en effet ça a été une espèce de maelstrom médiatique qui a fait partir en effet ce qu'on a appelé le phénomène Houellebecq.
Oui, alors j'ai oublié de dire mon gimmick Houellebecquien du début, qui est je préfère commenter Houellebecq que de le lire. Et franchement, on pourrait faire une semaine de radio sur lui, c'est vraiment un sujet formidable. Teresa Crémisi, par exemple. Donc ce que je dis, moi, c'est que les Cahiers de Lerne, c'est ce numéro des Cahiers de Lerne, permet un certain recul et parle aussi de la construction d'une image, d'une carrière. Ouais. Il y a un autre de vos contributeurs qui dit que Houellebecq, je pense que c'est un des deux dont on vient de parler, a construit sa carrière comme un artiste d'art contemporain.
Oui,
c'est quand même formidable. Je veux dire, c'est pas... Et même, je sais pas, enfin, je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais... On ne parle pas du fait qu'André Breton spéculait sur l'art et puis qu'il se remet à aimer la peinture parce que c'est de ça dont il vit. Et là, on en parle. Donc, on est dans une dimension. Et c'est là les paradoxes houellebecquiens. C'est aussi présent dans ce que Houellebecq écrit. Donc, c'est aussi c'est aussi l'empreinte de Houellebecq et même l'aspect journalistique est aussi houellebecquien. Enfin, je veux dire, les essais cinglants par lesquels on... Les essais d'emblée qu'il fait ont quelque chose si on cherchait des équivalents, on va les trouver dans de très bons articles de fond pour Playboy, par exemple, dans les années 70. Alors, on va prendre Normal Mailer, on va trouver assez facilement quelque chose qui a une tonalité tout à fait du même type, c'est-à-dire démystifier, par exemple, une certaine sorte de tourisme. Ou dire, je ne sais pas, les touristes allemands en Espagne, je peux vous trouver des exemples dans Rolling Stones. Alors, je disais Playboy, mais peut-être que Rolling Stones, c'est plus juste. On va prendre un recueil de textes paru dans Rolling Stones, on va trouver la même chose. Ça, c'est le côté Neil Young de Houellebecq. Et donc, c'est pour ça que je trouve que ces cahiers de l'art sont assez justes sur tout ce que ça brasse, quoi.
Oui.
Alors, évidemment, on peut toujours trouver qu'il y ait des lacunes, mais... je trouve que c'est assez bien et quand même il y a ça. Alors c'est un échange de mails avec Teresa Crémisi. Il y en a 20 pages, c'est quand même assez copieux. Et de quoi parlent ces pages? Elles parlent d'une carte de couverture quand même, d'une campagne d'une campagne de promotion. Elles parlent de et sera un manque, mais ce sera un manque dans ce qui est bien. Mais bon, elle est là quoi, mais c'est pas la même figure ni la même démarche. Enfin, c'est quelque chose c'est plutôt une gestion qu'une fabrication. Dans son cas, elle hérite déjà de quelque chose qui est fait. Tandis que Sorin, c'était une vraie campagne. Enfin, c'était une campagne napoléonienne d'occupation du terrain.
Il y a eu, en effet, Sorin qui a accompagné le lancement de Houellebecq, ça c'est sûr. Mais on sent justement dans la correspondance avec Teresa Crémisi à quel point elle est présente pour lui, à quel point elle l'accompagne, à quel point ils discutent tous les deux et qu'il y a une forme d'amitié très profonde qui se crée. Et puis par rapport à ce que vous disiez, moi ce qui me fait vraiment rire dans la correspondance avec Teresa, c'est que oui, il est question de quatrième de couverture, il est question de chiffres de vente, il est question de prix littéraire, etc. Mais on voit bien que d'une certaine manière, c'est Teresa Crémisi qui fait son travail d'éditrice en prenant ça en charge, parce qu'à un moment, Michel Houellebecq lui dit Teresa, est-ce que vous voulez me raconter les manœuvres que vous faites pour le Goncourt, parce que vraiment je me dis que ça doit être difficile, je me dis que vous devez n'avoir personne à qui en parler, et donc si vous avez envie de partager un peu, dites-le moi. Et donc elle lui dit 2-3 choses qui sont d'ailleurs assez étonnantes sur ce que ça nécessite comme stratégie, en effet, de briguer un prix Goncourt. Et il lui répond « Oh là 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 là, ma pauvre Teresa, décidément, ce que vous me dites du Goncourt, c'est pire encore que ce que j'imaginais. » Et donc, on voit que lui n'y connaît rien, ne sait pas, lui demande ce qu'elle fait et se dit « Ouh là là, mais heureusement que moi, je suis pas là-dedans, parce que vraiment, ça m'ennuierait un maximum. » Donc Il y a évidemment, comme pour tout écrivain aujourd'hui d'ailleurs, il y a en effet de la stratégie et une stratégie éditoriale autour de la production de l'œuvre de Houellebecq. Mais lui est relativement à l'écart de tout ça, ce qui est assez étonnant. De la même manière que quand vous dites la gestion de l'image, etc., il y a beaucoup de gens qui pensent que quand Houellebecq intervient par exemple à la télé, etc., il a... cette apparence, ce débit tellement caractéristique, etc., et que tout ça, c'est une pause pour attirer l'attention sur lui, ben, on peut lire à ce moment-là, dans le cahier, l'article de Pierre Lamalati, qui raconte, en effet, qu'il a connu Houellebecq à l'école L'Agro, puisqu'ils ont fait L'Agro ensemble, et qui dit, à ce moment-là, enfin, qui décrit Houellebecq tout jeune, il devait avoir 18-19 ans, comme, je cite de mémoire, donc c'est pas exact, mais une espèce d'ermite pouvant bouquiner toute la journée et se nourrir de camembert.
Il y a l'anecdote du bus, là, quand il m'attend dans le bus, c'est très très bien. Non, vous êtes formidable. Je dois dire aussi, je dois souligner que toutes les questions que je me posais ont trouvé... Enfin, ça m'a poussé à tout reformuler mes questions et à défaire les nœuds un peu durs que je pouvais avoir sur Houellebecq, les endroits où je pouvais scléroser un peu dans mon opinion. Ouais. C'est ouvert, l'ensemble est ouvert.
Oui.
On va écouter un petit morceau de musique. Adrien, on peut avoir le premier morceau qui a relancé.
Nous marchons dans la ville. Nous croisons des regards, et ceci définit notre présence humaine. Dans le calme absolu de la fin de semaine, nous marchons lentement aux abords de la gare. Nos vêtements trop larges abritent des chairs grises, à peu près immobiles. Dans la fin de journée, notre âme minuscule, à demi condamnée, s'agite entre les plis et puis s'immobilise. Les hommages à l'humanité se multiplient sur la pelouse. Ils étaient au nombre de 12, leur vie était très limitée. Nous avons existé, telle est notre légende. Certains de nos désirs ont construit cette ville. Nous avons combattu des puissances hostiles, puis nos bras amaigris ont lâché les commandes. Et nous avons flotté loin de tous les possibles.
Alors voilà, donc c'était Présence humaine, et justement c'est un des aspects qui me semble manquer dans les cahiers de Lerne. C'est vraiment dit sans aucune agressivité, mais c'est parce que je trouve ça amusant. Mais là, on entend un Houellebecq qui articule, qui a l'air ferme, qui a l'air hargneux. Et j'ai amené une autre chose qui n'est pas non plus dans les cahiers de Lerne, c'est sa postface à Valérie Solanas, Scum Manifesto. Pour ma part, j'ai toujours considéré les féministes comme d'aimables connes, inoffensives dans leurs principes, malheureusement rendues dangereuses par leur désarmante absence de lucidité. Et ça continue comme ça, oui. Etc. Alors, j'ai aussi amené à rester vivant. Et si je prends la nouvelle, je pense que je l'ai lue pour la première fois dans un recueil des Arocs qui s'appelait 10, un recueil de nouvelles. Elle s'appelle « L'architecture contemporaine comme vecteur d'accélération des déplacements ». J'évite un petit paragraphe. « Le grand public, on le sait, n'aime pas l'art contemporain. Cette constatation triviale recouvre en fait deux attitudes opposées. Traversant par hasard un lieu où sont exposées des pièces de peinture ou de sculpture contemporaine, le passant moyen s'arrêtera devant les œuvres présentées, fût-ce pour s'en moquer. Son attitude oscillera entre l'amusement ironique et le ricanement pur et simple. Dans tous les cas, il sera sensible à une certaine dimension de dérision. L'insignifiance même de ce qui lui est présenté sera pour lui un gage rassurant d'innocuité. Il aura certes perdu du temps, mais de manière, au fond, pas si désagréable. Placé cette fois dans une architecture contemporaine, le même passant aura beaucoup moins envie de rire. Dans des conditions favorables, tard le soir, ou sur fond de sirène de police, on observera un phénomène nettement caractérisé d'angoisse avec accélération de l'ensemble des sécrétions organiques. Ouais. C'est très viril, c'est très... on a beaucoup aimé ce Houellebecq-là.
Ouais,
et le Houellebecq, on m'a parlé tout de suite du premier livre, L'extension de la lutte. C'est un de ses voisins qui l'avait lu, qui s'appelle Marc-Édouard Nab, qui en a parlé avec Frédéric Pajac, avec qui je bossais. Et, Pajac a beaucoup aimé parce que ça parlait de l'entreprise. C'est que Pajac avait toujours voulu monter des entreprises, qu'il est d'ailleurs, il est éditeur maintenant chez Michel Chastel. Mais c'est moi, quand j'ai lu cette nouvelle, j'ai acheté le recueil d'occasion. Je pense que c'était un service de presse. Il venait de sortir. Et ça m'ennuyait prodigieusement. Les 10 nouvelles qu'il y avait dans ce... qui étaient tous les gens d'époque, les petits brochets, quoi, de l'époque, les petits chouchous, une génération. Et le truc de Houellebecq m'avait fasciné, quoi. Ouais. Et je trouve que ça manque un peu, ce côté... Il y a quand même un Houellebecq... Ça donne une image quand même un petit peu de quelqu'un qui subit, alors que c'est pour ça que je parlais de... Je veux bien admettre qu'il ne construit pas son image. Je ne sais pas si je veux bien l'admettre sur la construction de l'image. Je veux bien admettre qu'il y ait des moments dans la vie et qu'il y ait des hauts, des bas, qu'il y ait des moments où on est plus lucide, moins lucide, il y a des moments où on a plus la pêche, des moments où on est déprimé, d'accord. Mais je me rends bien compte que Houellebecq est un être humain. Mais il a quand même une emprise sur le monde, quoi.
Bien sûr, mais ça n'a rien à voir.
Il y a aussi cette histoire de poésie, cette idée romantique du poète. En plus, il fait référence à Lamartine. C'est pas du tout un type démuni. Et bien, sa poésie, c'est ce qu'on vient d'entendre. Donc, c'était un petit peu la démonstration.
Du tout, mais je pense pas. Quand je dis, il n'est pas. Je sais plus. Il y avait un article qui s'appelait "Portrait de l'artiste en vieux singe" et qui le représentait comme une espèce de stratège retiré dans son antre il est pas comme ça. En fait ça l'ennuie même, je pense, à vrai dire. C'est pour ça qu'il délègue.
Alors vous pouvez lire un article qui s'appelle de lui, qui s'appelle "Un écrivain normal".
Je suis un écrivain normal.
Oui, mais c'est très bien. C'est un article des Arocs, en fait, je crois.
Il l'avait publié dans un c'était à l'occasion du prix de Flore.
C'est bien.
Hein. C'est très bien, mais c'est complètement ironique, évidemment. Oui. C'est à la fin, il décide qu'il va devenir star. Ouais. Donc voilà, je pense qu'en effet, quand je dis, je pense pas qu'il soit vraiment très stratège par rapport à son image, ça veut pas du tout dire que je pense qu'il soit dénué d'agressivité fondamentalement. Au contraire, ses textes ont une force d'attaque extrêmement forte. D'ailleurs, dans Rester vivant, qui est le premier volume qu'il ait publié, il y a un moment où il dit « passez à l'attaque ». Cette société a pour but de vous détruire. Vous en avez autant à son service. Passez à l'attaque. À un autre moment, il dit « toute société a ses points de moindre résistance, ses plaies. Trouvez la plaie, mettez le doigt dessus et appuyez bien fort. » Voilà, c'est ça, Houellebecq. Houellebecq, c'est l'idée qu'en effet, on va trouver la plaie de la société, mettre le doigt dessus et appuyer pour faire mal. Donc, il y a quelque chose, en effet, de fondamentalement agressif. Et dans le texte que moi aussi j'adore, que vous citiez tout à l'heure, qui en fait est un extrait d'un petit essai un peu plus long que ça, qui s'appelle « Approche du désarroi ». Bon, il a aussi le génie des titres, je trouve, mais... Donc dans Approche du désarroi, il dit à la fin que justement il décrit cette espèce d'architecture contemporaine qui nous pousse à une espèce de mouvement inarrêté qui est la théorie des flux au bout du compte et qui renvoie à une théorie économique. Et il dit il y a un moyen d'arrêter ça et de produire une sorte de révolution froide, dit-il. Donc c'est son aspect révolutionnaire. C'est tout simplement de s'arrêter, de faire un pas en arrière et de se mettre hors du flux informatif publicitaire pendant quelques secondes. Et il suffit de ça, de quelques secondes, de se mettre hors de ce monde-là qu'on essaie de nous imposer, et on produit la révolution froide qui permet de gripper la machine. Donc, il y a ce côté-là, et moi, c'est ça que j'aime chez Houellebecq. Donc, loin de moi l'idée de vouloir l'édulcorer ou enlever cette force incisive qui est typique de son style.
Ça me fait penser, mais j'ai lu Lovecraft aussi dès qu'il est sorti, donc pour d'autres raisons. Enfin, c'est la culture pop par excellence, quoi. Et il y avait cette problématique du racisme qui sourdait, qui était en fond, quoi, qui prend une place énorme. Et après, c'est quand même un endroit où il y a une espèce de jeu pas net, quoi. Enfin, ça, Et il y a une chose que, il y a, je crois qu'il y a un seul livre de Houellebecq que j'ai jamais ouvert, c'est ses entretiens, ou je sais pas comment ça se présente, avec BHL.
Ouais.
C'est très dur, je me rends pas du tout compte de le, bon là, il y a la contribution de BHL dans le, qui m'a rappelé que cette chose existait.
Ouais.
Dans les cahiers de l'herbe, c'est très complet, hein.
Et je vois l'ironie.
Il y a un ancien critique de Voici. Et il y a aussi l'inévitable Onfray qui,
qui
la ramène avec une lourdeur assez exceptionnelle. Mais quand même, que penser, mais ça c'est anecdotique, mais il est bien l'article du Bec BD, je veux dire, par rapport à celui d'Onfray qui est vraiment habitable.
Uh-huh.
Mais l'histoire du BHL, comment il faut penser ça? Bon, je pense que vous l'avez lu. Qu'est-ce que
bien
c'est
sûr.
Cet objet?
Alors c'est un objet en effet très 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 étrange, mais je pense que vous avez tort et je pense qu'il faut vraiment le lire parce qu'en fait, on peut pas faire plus différent dans le style quand on lit une lettre après l'autre. Enfin, on voit bien, ça n'a rien à voir. Moi, je ne vais parler que de Houellebecq parce que je suis spécialiste de Houellebecq et pas de Bernard-Henri Lévy, mais les lettres de Houellebecq sont extrêmement, il se livre finalement beaucoup dans ces lettres-là. Donc c'est intéressant parce que il dit des choses qu'il a jamais dites ailleurs. Et puis il raconte aussi son histoire familiale à un moment où il l'avait pas du tout raconté, son enfance, ses rapports avec ses parents, voilà. Et puis il y a des morceaux de lettres aussi qui ont un côté un peu théorique. Et c'est d'une certaine manière, il a aussi peu théorisé. Et là, il travaille sur ce qu'il pense de la poésie. Il raconte ses premières lectures de Pascal. Enfin, il y a plein de choses à tirer de cette correspondance-là. Et puis, alors, voilà, on peut aimer ou ne pas aimer Bernard-Henri Lévy, mais moi, j'aime bien, en fait, son article dans le cahier où il raconte comment est né Ennemi public, justement, cette correspondance qu'il a publiée avec Houellebecq. Et je ne sais pas si vous avez lu, c'est assez drôle.
Oui, j'ai lu, donc Houellebecq lui envoie un tweet en disant « je vais me suicider ».
Voilà. Et BHL lui dit, écoutez, avant, venez dîner avec
repas,
moi. Voilà, faisons un dernier repas. Il l'invite, il se parle, et puis après une conversation un peu roulant sur des choses, des choses et d'autres, il finit par dire, et alors, se suicide. Et Houellebecq lui dit, écoutez, ça va très mal, je n'aime plus ma femme, mon chien est très malade, et j'ai plus personne à qui parler. BHL lui dit, écoutez, les chiens, franchement, j'ai jamais aimé ça, votre femme, je n'y peux rien, en revanche, personne à qui parler, faisons si vous voulez un livre de correspondance. Et donc Ennemi public part de là. Et c'est drôle de percevoir que là encore, on a beaucoup dit oh là là, quel coup de pub, etc. Alors évidemment, c'en est un. Mais au départ, visiblement, et j'ai eu d'autres échos, j'ai vérifié les sources, j'ai eu d'autres échos qui me disent qu'en effet, ça s'est bien passé comme ça. Au départ, c'était ça. Au départ, c'est je vais
mais
me suicider.
Qu'est-ce que lui fantasme dans BHL? Qu'est-ce qu'il voit? Pourquoi BHL? Pourquoi pas sa concierge? Pourquoi pas son voisin?
Est-ce que c'est
une épreuve? Enfin, c'est quand même très difficile à comprendre pour quelqu'un d'honnête et de gentil comme moi. Pourquoi il faut aller parler avec BHL?
Le fait est que BHL a été gentil avec lui à ce moment-là.
Non, mais ça, c'est pas.
Oui, non, mais.
Mais c'est sûrement intéressant. C'est peut-être un très, très Houellebecquien de. Il y a quelque chose de clownesque, enfin, il y a quelque chose de démon, il y a quelque chose. On dirait, je sais pas, c'est comme un contre-ténor russe qui chante un truc démon qui a son rêve. Enfin, c'est le truc le plus absurde qu'on puisse faire, mais.
C'est peut-être Houellebecquien dans ce sens-là. C'est-à-dire que comme c'est un artiste du télescopage qui travaille à justement faire se télescoper des réalités extrêmement extrêmement différentes très souvent, là il a trouvé BHL et voilà.
Et alors c'est marrant parce que je viens de retrouver là dans mes notes un petit trait tout à fait léger. J'ai commencé à lire les cahiers à l'envers, donc je suis parti de la fin pour arriver au début. Mmh. Et brusquement, j'ai pensé à Emmanuel Bove à un moment donné. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Et je me suis dit, pourquoi personne ne parle jamais d'Emmanuel Bove?
Ouais.
Et à un moment donné, quelqu'un parle d'Emmanuel Bove. Ouais. C'est la personne qui s'occupe de la collection chez Gallimard.
Ouais. André Velter de
poésie, et qui, je crois que c'est lui qui parle d'Emmanuel Bove. Donc, à peu près toutes les questions que je me suis posées dans la lecture, trouver un écho dans le cahier, c'est assez étonnant.
Dans La carte et le territoire, Houellebecq meurt, comme vous savez, il est assassiné, et il est enterré à côté de la tombe d'Emmanuel Boeuf. Ouais. Donc, en effet, il y a quelque chose qui est...
C'est plus juste qu'un modèle beckettien, parce qu'il y a tout cette... C'est plus juste que de faire référence à Beckett, dans le sens où il y a cet enracinement, enfin, il y a tout le côté musée de l'allumette, musée du coucou suisse, les bons de la Seine. Est-ce que je me suicide? Oui, mais est-ce que c'est vraiment un costume avec lequel je vais me suicider, etc. Quoi. Adrien, on va écouter le morceau numéro 2, s'il te plaît.
Betty came by on her way, said she had a word to say about things today. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I the plan for lilac time. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime. Said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought.
Donc c'était Nick Drake, oui, une tonalité, c'est sûrement un des Welbeck qui existe si. Il existe plusieurs Welbeck, hein, donc il y a le troisième chapitre qui s'appelle Welbeck de A à Z, et on a donc des approches sur Welbeck et le cinéma, Welbeck et la musique.
Welbeck et l'art.
Welbeck et l'art, oui, on aurait pu faire Welbeck et la télévision, mais ça n'a pas été fait, mais ça serait bien dans l'esprit de la chose.
Oui, j'aurais bien voulu, à vrai dire.
Et il y a, ça fait penser que Dominique Nogues, qui aussi participe beaucoup à la, et qui voit tout de suite, qui dit des choses très, très, très précises, ce qu'on apprend en lisant le numéro. Et je pourrais amener ma petite pierre à l'édifice. Je pense à Joachim Vidal, qui est le premier éditeur de Welbeck.
Ouais.
C'est aussi mon éditeur. Et quand j'édite mon premier livre chez eux, j'ai une phrase dans mon livre tout à fait par hasard, cette horreur de Welbeck, je sais pas quoi.
Ouais.
Et ils sont très contents parce qu'ils le détestent, en fait. Mmh.
Ouais,
ils se sont sentis trahis.
Oui.
Et je m'en suis vraiment rendu compte la fois suivante où j'ai dit du bien de Welbeck, parce que c'est typique, on change sans arrêt d'avis.
Oui, oui.
Et où Colette Lambris m'a regardé méchamment et je me suis dit, je viens de commettre un impair. et donc j'ai dû me justifier et j'ai dit, mais j'aime bien son ambition.
Mais cela dit...
Je pense à Nogues, justement.
Oui, oui, oui.
Je sais pas, je l'ai vu, c'est J'avais pas fait le rapport. Enfin, je savais pas, moi, l'histoire de. Donc, il en parle pas, par exemple, comme ça, dans le.
De qui ?
De Houellebecq.
Nougaz ?
Oui.
Bah, il est présent par un article dans le cahier, mais c'est vrai que. Voilà, il y a un moment où ils sont fâchés très violemment tous les deux. Bon, voilà, c'est la vie d'une certaine manière, sans doute, mais c'est triste. Mais en tout cas, c'est vrai que, enfin, Joachim Vital a eu une importance vraiment fondamentale dans la carrière de Houellebecq. Il a été le premier à le publier. Et oui, c'est vrai que c'est vrai que très clairement, ils se sont sentis trahis. Ça n'a pas empêché que Houellebecq écrive à la mort de Joachim Vital un article qui figure dans le cahier et où il dit toute l'admiration qu'il a eue pour cet éditeur-là, qui était, dit-il, un éditeur qui fonctionnait, enfin qui était une sorte de...
C'est sa métaphore sur les voitures.
Ouais, voilà, exactement, exactement. Et où il dit que voilà, que c'est une sorte de
un
dinosaure
modèle, qui n'existera plus jamais.
Voilà,
un
c'est
modèle
ça.
Modèle d'éditeur qui n'existera
plus. Qui n'existera plus et qui fonctionnait à l'instinct, au flair, qui avait cette capacité vraiment incroyable à sentir un auteur et à tout faire du coup pour le publier sans se préoccuper justement d'une raison commerciale. Et par ailleurs, les éditions de La Différence, en effet, ont gardé rancune à Houellebecq, mais m'ont permis, je les remercie au début là parce que ils m'ont ouvert leurs portes, ils m'ont donné leur dossier de presse, enfin.
Ils ont peut-être changé d'avis depuis, parce que l'anecdote que j'ai racontée, elle a 10 ans. Donc,
ouais, je suis pas sûre qu'ils aient vraiment changé d'avis, ouais. Mais en tout cas, ils ont participé très gentiment au cahier.
Et c'est grâce à eux aussi qu'il a écrit cette préface à Gourmont, là.
Oui,
qui,
oui,
qui est vraiment
oui,
bien
oui.
Aussi.
C'est Claude-Michel Cluny, ouais, 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 qui lui a commandé
vous
cette préface. Qui
vous
préface.
Intéressez à la poésie, c'est bien, quoi.
Oui, oui, non, vraiment, ça a été, c'est pareil. Et puis, c'est, non seulement c'était une nouvelle publication pour lui, dans un autre style qui était celui de la préface, mais en plus, quand on lit cette préface-là, on se rend compte que ça lui a permis de, sans doute, de théoriser encore davantage ce qu'était pour lui son rapport à la poésie et ce qu'il en pensait. Donc, non, ça a été une étape fondamentale dans son parcours, ça c'est sûr.
Oui, on a vraiment un petit traité d'esthétique, en fait, sur
son... Oui.
Il définit son idée de la poésie
oui.
Comme étant quelque chose qui... Comment diriez-vous
Lui dit l'intuition pure d'un instant. La poésie, c'est ça. C'est l'intuition pure d'un instant.
Et un refus de l'intelligence.
Il dit,
mais est-ce qu'il dit la sensation que la sensation, c'est peut-être pas le terme.
La sensation, le sentiment. En tout cas,
il dit le sentiment. Vous dites ça.
Il n'y a pas de poète intelligent. Il dit. Voilà. Et pour le titre de la préface, c'est renoncer à l'intelligence. Donc il faut savoir accepter une sorte de défaite de l'intelligence pour arriver à devenir poète. Voilà, c'est ça.
Est-ce qu'il dit qu'il ne retouche pas ses poésies ? C'est ce que j'ai bien compris ?
Oui, il retouche jamais ses poésies.
C'est ce que faisait Bukowski, donc c'est un flux, c'est une impulsion.
Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. C'est écrit vraiment dans l'instant, alors que le roman, lui, est l'espace d'un travail. La poésie,
Il faudrait qu'il soit là pour qu'on lui demande comment il articule ça avec son admiration pour Baudelaire.
Ah oui, ça, d'un autre côté, il écrit en vers, ce qui est extrêmement rare en poésie contemporaine.
Mais sans retoucher, enfin avec cette espèce d'idée du premier jet, de la spontanéité.
Ouais, Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, la rime, pour lui, est une sorte d'appui, une aide, parce que quand il part sur un texte avec cette idée de la rime, les mots s'engendrent les uns les autres sans intervention de la pensée, justement. C'est la sonorité du mot et sa texture, d'une certaine manière, qui appelle la suite. Et donc, il arrive à se laisser aller à cette espèce de spontanéité d'écriture grâce à la structure de la rime et au rythme du vers. C'est étrange, hein, mais...
Alors, surtout, ce qui est étrange, c'est que quand même, quand on... Mais bon, je ne sais pas, je ne suis pas vraiment connaisseur sur la... Enfin, sur rien. Mais si on écoute, là, on a la chance d'avoir 4-5 versions sonores. On retrouve quand même comme... ces concepts, enfin, son imagier, ces images qui reviennent.
Ouais.
Et on n'a pas l'impression que c'est du Verlaine, on n'a pas l'impression que c'est composé sur la musique, on n'a pas la musique des mots, je veux dire la sonorité, le côté Mallarmé aussi même, qui est tout à fait à l'autre pôle.
Ouais.
Mais oui, que si, c'est quoi, c'est un congélateur, s'il se prend les pieds dans un congélateur, c'est quand même le congélateur, c'est le concept de congélateur qu'on voit avant la sonorité congélateur. C'est un très bon exemple.
Oui. Ben oui, mais oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que quand il écrit ce poème-là qui s'appelle Hypermarché Novembre et qui commence par le fameux vers « D'abord j'ai trébuché dans un congélateur », oui, c'est sans doute pas la musique du vers, c'est l'idée de ramener la poésie à l'hypermarché, de faire rentrer la poésie dans l'hypermarché et de dire ce que c'est que ce geste-là et à quel point c'est désespérant d'en être réduit à un monde qui est un supermarché et de devoir écrire de la poésie qui tienne compte de ce monde-là. Mais malgré tout, je pense que le rythme, je pense que il dit dans le cahier à un moment que il a commencé à écrire des alexandrins aussi parce que quand il a commencé à écrire de la poésie, il était tout jeune et il avait lu tout Corneille et toutes les pièces de Corneille intégralement. Et je pense qu'en fait, il a été pénétré de ce rythme-là. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans les romans houellebecquiens, on trouve des alexandrins blancs très souvent. Et notamment à la fin. Et je pense que quand il veut arriver à quelque chose de poétique, qui produise un effet poétique, c'est le rythme qui lui vient naturellement.
Il y a aussi une des choses à part l'abondance des jeux qui revient beaucoup, c'est bon, je suppose que c'est lié à. D'ailleurs, ça a dit aussi du bien de votre travail. On voit qu'il y a un surmoi dans ce cahier. C'est l'antériorité de son inspiration toujours repoussée plus loin. Hein, donc, c'est ce que. Parce que là, il y a aussi ce réemploi, par exemple, cette poésie dans ses romans.
Oui.
Et. Bon, je ne serais pas pour une approche universitaire, mais je pense qu'il y a quand même deux, trois questions assez complexes qui n'ont pas été résolues, heureusement, dans ce cahier. Ouais. Mais ils marchent mais c'est le cas d'un peu tout le monde aujourd'hui, enfin de tous les gens qui ont un peu d'ambition sur l'écriture. Justement, ouais. Ce que je disais, on marche entre le plat et le bizarre.
Ouais.
Et c'est que je pense que vous faites une erreur sur le fait de, franchement, sur ouais. le fait de repousser dans l'antériorité, vous confondez l'intelligence et la sincérité de la démarche dans cette idée d'affronter ce problème de l'écriture, de quoi dire comment, qui est un peu le problème ouais. qui se pose à n'importe qui veut écrire et qui n'est pas dans un profil de normes, de bon élève, qui ouais, cherche à ouais. renouveler à la fois les formes et l'approche du contenu.
Ouais.
Et que c'est ça ce que vous retrouvez dans l'intériorité. Ce n'est pas.
Je comprends pas ce que vous voulez dire par l'intériorité.
C'est que vous allez dire tout de suite, il parle de ça. Il
oui.
parle tout de suite, c'est comme un petit peu comme une approche psychologisante freudienne.
Oh non, voilà, surtout pas.
Mais là, c'est sur les objets, donc il y aurait tout de suite un congélateur ou tout de suite un attachement à la France d'avant ou tout de suite un attachement au 19e siècle.
Ouais.
Bah ça, pour moi, ça ressort quand même un petit peu. C'est une. Mais il y a l'idée dès qu'on fait un recueil comme ça, qu'on cherche ouais. des témoignages et tout, il y a une idée archéologique un petit peu. Il y a des couches.
Oui, c'est vrai. Oui, hein, oui.
Donc on
oui,
a
oui.
comme un. Mais c'est un freudisme de strates, on va avoir des couches et on est content et on est un petit peu le Sherlock Holmes, on trouve des indices, des bon.
Ah oui, ça, il y a eu une procédure d'enquête.
Je fais confiance, c'est bien meilleur que moi sur le sujet.
Non, c'est pas ça le problème, mais c'est vrai qu'il y a eu une procédure d'enquête parce qu'il y a tout simplement des gens qu'il avait complètement perdu de vue, que j'ai retrouvé pour pouvoir, donc ça c'était le côté aussi très passionnant du cahier, d'aller retrouver des gens qui étaient perdus dans les nuages et que voilà, qu'il fallait que j'aille interviewer. Ça n'a pas toujours été facile de les retrouver, mais j'étais toujours très très contente quand je pouvais à nouveau discuter avec eux. En revanche, quand vous dites il y a une espèce de freudisme de base dans l'archéologie des couches, enfin ce que vous dites de manière très 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 imagée et très juste, c'est non. Non, je me défends contre
non,
ça,
non.
parce que tout simplement, ça supposerait que je construise une espèce de cohérence justement par-dessus tout ça, que je veuille construire un système avec des effets et des causes et une explication globale. Or, vraiment au contraire, ce qui a fait que j'ai trouvé vraiment génial de travailler sur ce cahier, c'est que j'ai pu au contraire faire quelque chose de complètement éclaté. Les cahiers de Lerne, pour ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on peut multiplier les points de vue lancer des hypothèses qui des fois trouvent un écho ou pas, et justement faire cette espèce de portrait très diffracté, très très éclaté, qui est pas un... C'est pour ça que je commence dans mon avant-propos, je commence sur le portrait de la carte et le territoire, le portrait que Jed Martin fait de Michel Houellebecq, qui, quand on lit, est une espèce de portrait impossible. C'est impossible de se représenter cette image-là qui est décrite. Parce qu'elle est trop, elle est trop incohérente d'une certaine manière. Et moi, je voulais que le cahier puisse représenter ça. Une espèce de portrait impossible pour que chacun, chaque lecteur, puisse après aller piocher dans les divers articles et se forge son propre portrait de Houellebecq. Sans moi, proposer une espèce de cohérence qui, en effet, vous avez tout à fait raison, serait de toute manière factice et artificielle.
Alors, ça marche, je suis bien.
Merci.
C'est l'expérimenté sans moi, j'ai tout lu, sauf la pièce de théâtre.
Et, vous avez tort.
Non, mais j'y arrive pas. Ça me paraît tellement...
Ah oui.
Non, je peux pas. Mais... Ben, par exemple, je vais prendre un trait très précis qui m'a impressionné. Donc, il y a cette espèce de petit garçon malheureux, sa mère l'abandonne. Donc, ça a marché, par exemple, pour des gens plus jeunes que moi, parce que donc j'ai 12 ans de plus que Houellebecq. Mais des gens de son âge, en fait, qui avaient une mère comme des mères jouisseuses, comme il décrit des fois, qui font passer le plaisir avant leurs enfants et tout. Mère 68 art égoïste, typique, quoi. Et donc, il y a cet enfant, son père est un sale con, qui était guide alpestre, tout ça.
Ouais.
Et il y a une anecdote où il pleure en public, Houellebecq.
Oui.
Et ça me paraît impossible pour quelqu'un qui a eu une enfance difficile, par exemple. Ça me paraît impossible de pleurer en public quand on a eu une enfance difficile. Je prends ça comme exemple, c'est pas pour qu'on ergote là-dessus, mais ça prouve bien que ça... En fait, on a aussi la vie d'un homme ou de quelqu'un qui est décrite abondamment dans ce cahier.
Ouais.
Cette approche est différente.
Ouais.
Et je dois dire aussi sur le... Vous avez parlé d'approche universitaire, donc j'ai écouté les 4 émissions de France Culture sur Houellebecq, dont la vôtre. C'est où vous étiez invité, la première.
Ouais.
Et les approches universitaires, c'était assez embêtant, quoi. Enfin, on comprenait pas bien, des fois, l'intérêt du propos. C'est un peu, c'est un peu tôt. un peu tôt. Pour quelqu'un qui est encore vivant. Et c'est pas sûr que ça apporte vraiment quelque chose. C'est plutôt, à la limite, le terrain de Bec BD et de Voici est quand même plus intéressant que le terrain de la glosse universitaire pour le moment, jusqu'à preuve du contraire. Alors, il peut toujours y avoir un universitaire génial, je n'en doute pas, j'ai beaucoup d'estime pour un tas d'universitaires, mais c'est le... Il n'y a pas de raison de faire système tout de suite, quoi. Il faut, si on peut laisser les questions ouvertes, c'est ce que vous venez de dire, c'est une très bonne idée.
Ben, moi, c'est ce que je pense, mais alors Je pense que, c'est intéressant d'avoir des témoignages, mais ça c'est tout le problème de la littérature contemporaine, d'étudier la littérature contemporaine. Mais il y a, quand vous dites Bec BD, c'est de l'ordre du témoignage, quoique Bec BD, il fait aussi une vraie étude, il travaille sur plateforme, en l'occurrence dans le cahier, et il travaille sur le texte aussi. Mais moi je suis contente, au contraire, que Houellebecq commence à susciter des études universitaires, parce que il y a eu un moment où Houellebecq n'était approché que d'un point de vue psychologique, justement freudien d'une certaine manière. On essayait d'analyser ses souffrances de petit garçon, etc. Et on expliquait son œuvre uniquement de cette manière-là, ce qui, à mon avis, est complètement réducteur et le prive justement de la littérarité qui est la sienne et qui est intéressante, enlever leur substance au texte. Ou alors, on l'abordait du point de vue des polémiques qu'il suscitait, c'est-à-dire dans une optique étroitement médiatique, qui s'occupe peu des textes et ne s'occupe que du buzz, que de son point de vue politique, etc., etc. Et je pense que, les universitaires, en tout cas ceux que je défends moi, accordent une vraie importance aux textes, travaillent ces textes. Et que ça, c'est pas une manière, pour moi, travailler les textes, c'est jamais une manière de clore une question, mais c'est une manière d'en faire émerger et d'essayer justement de les ouvrir et de réfléchir à partir de ça. Et je pense que c'est les textes qui importent.
Oui, mais en même temps, C'est Houellebecq qui parle dans un texte de Zemmour. C'est Houellebecq qui écrit à BHL « Je vais me suicider ».
Ouais.
Et c'est Houellebecq qui a créé Beck BD. Et vice-versa. C'est...
Mais je dis pas que ça n'ait aucune... Enfin, que ça n'ait aucun intérêt.
C'est... Alors, la question, c'est pas tellement est-ce que ça a un intérêt ou pas. C'est comme ça, quoi. C'est
ouais,
aussi... Il y a des... Il y a des textes qui ont été écrits par des universitaires avec un point de vue universitaire dans ce cahier.
Ah bah oui, oui, dans la dernière partie, notamment, il y a plein d'études qui travaillent des aspects de l'œuvre de Houellebecq, qui travaillent sur le comique, Alain Vaillant, Christelle Coulot.
Bon, je les ai lus aussi, mais ouais.
C'est ce qu'il y a de plus traditionnel, si vous voulez, dans le cahier. Donc souvent, c'est pas ce vers quoi on va directement. Bon, évidemment,
on peut encore, par exemple, penser au rapport de Dantec et de Houellebecq. C'est quand même bien. Quoi.
Ah bah c'est génial.
C'est bien.
Bah, et c'est un universitaire qui a fait ça. Samuel Estier, il est universitaire.
Mais alors, je pensais au témoignage de Dantec.
Oui, vous voyez, les universitaires.
Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Par les éditeurs, il y a beaucoup de choses. C'est Houellebecq. On se refait une petite chanson, le Delpech, s'il te plaît. On va peut-être pas l'écouter en entier, mais c'est quand même marrant.
Quand il est descendu pour acheter des cigarettes, Jean-Pierre savait déjà qu'il ne reviendrait plus jamais. Il a pensé encore à toute sa vie avec Michel. Et puis il a tourné enfin le coin de la rue. Michel aurait voulu le voir grandir dans l'entreprise, mais lui ne se voyait pas finir ses jours au marketing. Avec dans son café les cours de la livre sterling et des enfants qui lui ressembleraient de plus en plus. Voilà pourquoi ce lundi-là, il s'en allait. Voilà pourquoi ce lundi-là, il s'en allait. Avec à 8 heures.
Alors, si je pense à est-ce que j'aime Houellebecq ou est-ce que je n'aime pas Houellebecq, c'était la question de départ qu'on m'avait posée. Il y a des choses que. Enfin, qui m'excitent dans la démarche de Houellebecq, il y a des choses qui me rebutent. Et évidemment que j'aime beaucoup la tentative. Je suis très attiré par les lisières des villes, les grandes surfaces. J'habite aussi dans le 13e arrondissement. Quand il parle de l'hôtel Citadine, enfin le fait qu'il ait une chambre à l'hôtel Citadine ou qu'il habite dans une tour, ça me plaît beaucoup. Ouais. Et j'aime beaucoup ses descriptions d'échangeurs. Et je ne sais pas si vous avez lu Le bonheur de Leclésio.
Non.
Il décrit une grande surface à Nice, ouais. Et ça prend pas du tout. Et je crois que ce Leclésio a eu un prix Nobel de littérature. Je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble. Et on l'a un peu perdu dans la brume, mais je crois qu'il est parti au Mexique, ou je sais pas quoi, peu importe. Il était très joli garçon, et je l'ai vu en Israël en 71, et c'est un souvenir très Houellebecquien.
Ouais.
C'est une conférence au Club Méditerranée, à Tel Aviv, et je suis parti, ça m'ennuyait tellement. Mais je me souviens même plus de quoi il parlait, pourquoi quelqu'un m'avait emmené. Et je me souviens juste qu'il avait un physique très très avenant, qui était très très beau, et que les trois premiers rangées c'était des dames un peu qui me semblaient un peu bizarres. Et c'est amusant quand même, parce que c'est pas la première fois qu'on a essayé de décrire cet univers, et c'est quand même une des marques de Houellebecq, c'est de...
Ouais.
D'arriver à rendre l'usure des matières plastiques, je sais pas. C'est son intérêt, c'est les particules élémentaires, c'est son intérêt pour les sciences aussi, c'est cette rencontre.
Oui,
Mais Rob Grillet était ingénieur agronome.
Oui, ils ont été en rivalité, deux élèves agronomes.
Et l'agronomie de Rob Grillet, dans les romans de Rob Grillet, paraîtrait 18e par rapport à celle de Houellebecq, qui est plutôt pop en fait. Il est plutôt pop.
Bah oui, bien sûr.
Et ouais. C'est le côté pop, en fait. Et puis aussi le côté l'essayiste, hargneux, comme je disais, me plaît beaucoup.
Ouais.
Puis il y a des fois, ça, enfin, je sais, par exemple, j'ai pas du tout aimé Soumission. Enfin, c'est un détail, mais.
Oui. Bah, de toute façon, ça c'est.
Et alors quoi d'autre? Qu'est-ce qui, bon, la poésie me résiste bien aussi. Quels sont les éléments des cahiers qu'on n'a pas soulignés de ces formidables cahiers? Bon, ben, il y a l'autre, le challenger, qui reconnaît qu'il a perdu la partie, Emmanuel Carrère. qui fait un truc qui finit un peu, de façon un peu mièvre. Alors ça, c'est tout à fait paradoxal parce que on a découvert Carrère avec des textes dépressifs qui étaient formidables. Enfin, il y avait, enfin, c'est comme le truc sur Lovecraft. On connaît Carrère à cause d'un bouquin sur Herzog paru à l'âge d'homme il y a un siècle ou deux. Et que peu de gens avaient lu, mais qui était un bouquin très habité, qui faisait un lien entre Herzog et Maître Eckhart, ce qui était quand même très bien. Ouais. Et puis il y a eu la biographie de Kadic, Je suis mort, vous êtes
je suis vivant et vous êtes mort,
qui était formidable.
Ouais, ouais.
Et là, on a un Carrère en Thaïlande, et puis il est, c'est de la folie, quoi. Je dire, il est dans un livre de Houellebecq et il a un sourire de. C'est le ravi de la crèche. Il est vraiment, c'est une belle réussite. Alors, comme quoi, ça vaut la peine d'essayer de faire des coups. Et on m'avait dit du bien, ce Thomas Clair, et je suis passé à côté. Alors, c'est Clémentin Rachet qui a fait le livre sur Houellebecq et l'architecture, qui avait trouvé formidable Thomas Clair.
Ah, moi, j'aime beaucoup ce qu'a fait Thomas Clair.
C'est sur la poésie, alors qu'est-ce qu'il
écrit ? C'est sur la poésie. Bah, il travaille sur... Enfin, je ne saurais plus vous dire exactement...
Ah non, c'est pas une question piège. Il y a des centaines de pages.
Il travaille sur la poésie et il essaye de montrer justement contre toutes les critiques qui visent notamment Houellebecq poète, que cette poésie là a quelque chose de très neuf, de très, et en même temps de très ancien, parce qu'il y a tout l'arrière-plan 19e, et il essaie de montrer un peu la spécificité houellebecquienne de cette poésie dans le champ contemporain. Mais c'est un texte étonnant, celui de Thomas Clair, parce que il est à la fois analytique, il travaille sur des textes, à la fois polémique parce qu'il vise vraiment certaines critiques qui ont été faites sur Houellebecq, et puis en même temps, il est un peu autobiographique, il raconte en même temps quel a été son propre rapport à la poésie houellebecquienne, enfin, c'est un texte très atypique.
C'est toujours ce jeu qui revient tout le temps.
Voilà, ouais.
Ça appelle
en effet.
Le jeu, quoi.
Ouais. Comme quoi, Houellebecq, qui déteste la psychologie individuelle, au bout du compte, amène les gens à sans doute à s'interroger sur eux, sur leur propre rapport à la littérature, à la poésie. Enfin, il y a quelque chose qui revient.
Quand il dit du bien du Monoprix, on est un peu obligé de s'interroger sur notre propre rapport au Monoprix.
Ouais.
Des fois, il arrive à être léger et drôle, quoi. Il est pas. Des fois, il est lourd et. Des petits côtés un peu rance même des fois, mais quand il est c'est vraiment on est obligé de prendre un point de vue.
Oui, c'est ça, c'est exactement ça,
un point de vue.
Il nous oblige,
on peut pas être neutre.
Oui, c'est ça. Oui. Et il nous oblige à nous positionner, à nous poser des questions et à savoir comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ce qu'il dit. Et ça me semble salvateur en ce moment, justement. Une littérature qui nous oblige à nous poser des questions et qui nous oblige à nous dire où je suis dans tout ça, moi. Qu'est-ce que je fais avec tout ça?
C'est sûrement une des, c'est une des raisons pour lesquelles ça marche. Mmh. Mais là aussi, il y a aussi une aspiration nostalgique, en fait. Il y a cette religion qui revient, il y a la France qui revient. C'est une, des notions comme ça, qu'on croyait définitivement derrière nous. Eh bien, non. elles ne sont pas derrière nous. Il y a aussi, aussi un petit chapitre sur Houellebecq et l'international avec les traducteurs.
Oui.
Hein, c'est intéressant. Et de voir comme les Allemands, par exemple, sont générés avec ce Houellebecq qui dit tellement de.
Oui.
c'est ceux qui caricaturent le plus.
Oui, mais c'est très impressionnant. Là, je sais qu'il y a eu une vague vraiment d'adaptation au théâtre de ces romans en Allemagne. D'adaptation de Soumission, d'adaptation d'autres romans de lui. Enfin, ça a l'air d'être absolument incroyable, la réception de Houellebecq en Allemagne. Mais bon, on pourrait aussi parler de l'Espagne, de l'Italie. Enfin, il y a vraiment
plein d'approches.
Ouais.
C'est un ensemble ouvert, hein, parce qu'on pourrait, pas, on pourrait parler des classes moyennes.
Oui, oui. Ouais,
et
ouais,
se poser
ouais,
la
ouais.
question des classes moyennes au Japon. Et oui, puis après ouais. discuter avec le traducteur japonais. Ouais. Liste, comment sont les classes moyennes au Japon? Est-ce ouais, qu'elles se ouais. reconnaissent?
Oui, voilà, c'est ça. Mais ah, oui, oui. C'est ça qu'il faudrait, ça, en effet, ouais, essayer ouais, de savoir. Mais j'avais fait, au départ, ça a été enlevé parce qu'il n'y avait pas assez de place dans le cahier et il a fallu réduire. Mais j'avais fait une photo avec, j'avais rassemblé énormément de couvertures, de traductions de Houellebecq. Et j'avais, et c'est très impressionnant parce que on voit en effet les particules élémentaires en japonais, en coréen, enfin c'est vraiment...
Il en parle d'ailleurs à un moment donné de ses couvertures quand il dit qu'il a jeté le gant, qu'au début
ah oui
il s'en occupait et qu'à un moment donné il a arrêté.
Ça c'est dans la correspondance avec Teresa, il ouais. dit oh, pff, les couvertures j'arrête
il
en effet.
Il n'avait plus à suivre. Ouais.
Ouais, ouais, ouais. Tant pis si elles sont moches, il se débrouille.
Bon ben c'est la fin de l'émission. Mais je vous remercie.
Merci.
C'est vraiment très stimulant. C'est un bel objet qui est recommandé par la maison. La vie est un roman à Ligre FM 93.1. À mardi prochain.